Les visiteurs du soir, de Sabine Osnac, lue par Martine Bressan. Ils étaient là, tous, dans la belle pénombre de ce crépuscule unique, avec les ors du couchant et les légers clapotis de la marée montante. Certains souriaient, habitués qu'ils étaient de ces retrouvailles annuelles. On s'embrassait, on se demandait des nouvelles, « Et toi, vieux, quoi de neuf ?» « Oh, darling, comment allez-vous depuis le festival 2009? Vous êtes ravissante. » D'autres, presque intimidés, se tenaient en retrait, observant, légèrement mal à l'aise. Somme toute, c'était une impression de déjà-vu, un peu comme lorsqu'ils faisaient leur début, dans quelque cour du Hof en Avignon ou dans l'arrière-salle d'un café-théâtre du 12e. Cette présence impalpable d'un public dont ils n'étaient pas encore les héros, cette attente un peu fébrile devant un avenir incertain. Marilyn s'empara du micro, toute virevoltante et pulpeuse dans sa robe blanche que le vent faisait gonfler. Coquette, elle mettait systématiquement cette robe-là, sachant que les bourrasques printanières de la côte ne manqueraient pas de rejouer cette scène, même en l'absence de bouche de métro. Françoise l'accompagnait, chapeautée, gantée, égale à elle-même, pimpante et distinguée. La langue officielle de ces retrouvailles était bien entendu le français, puisque tous à présent étaient devenus polyglottes. C'était un des avantages de leur situation. Plus de traductions pénibles, fini les nuits passées à répéter un texte dans une langue qui vous écorchait l'âme. À présent, leur croisette, c'était Babel. Et Marcello déployait son charme auprès de Grace, tandis qu'Yves continuait à poursuivre Marilyn sous les regards amusés de Simone. Les deux jeunes femmes s'éclaircirent la gorge et souhaitèrent la bienvenue au public, de plus en plus nombreux. Les anciens avaient pris place sur les fauteuils marqués à leur nom. Orson fumait, bien peu sensible aux interdictions de cette France qui le faisait sourire avec ses répressions nouvelles. Clark tripotait sa moustache, tandis que James et Marlon, inséparables, buvaient une bière adossée au bar de la plage. Nous déclarons officiellement ouverte la 64e séance d'ouverture du Festival de Cannes et souhaitons la bienvenue aux participants de notre Cannes 2011. Ce festival off aura pour invité d'honneur M. Laurent Terzieff. Un tonnerre d'applaudissements coupa la parole à Françoise, qui sourit en regardant un grand monsieur au sourire lumineux s'avancer vers l'estrade. Il monta les quelques marches du podium de bois et se tourna vers la plage, et tous se turent en admirant le maître qui, dos à la mer, parla. L'illusion n'est-elle pas notre combustible pour continuer à vivre ? Voilà une phrase dont la presse s'était emparée. Mes chers amis, j'aimerais tout d'abord vous dire la joie, l'ineffable joie que j'éprouve à être devant cette mer mêlée au soleil et avec vous, ici, malgré la vie qui n'est plus. Vous me faites un grand honneur en m'ayant désigné comme votre hôte de marque cette année et je vous en remercie. Mais sachez une chose, je ne suis rien. Je suis le vent sur cette plage, je suis l'écume sur la mer. Je suis la voix de ceux qui sont partis, je suis la mer toujours renouvelée. Restent les images et les cœurs. Oh les cœurs, mes amis, que la fête commence. À quelques centaines de mètres de là, Alice longeait la croisette. Elle regardait les mouettes et les grandes silhouettes blanches des yachts amarrés au loin. Elle songeait à cet autre printemps, il y a longtemps, lorsque en 2005 elle avait foulé le tapis rouge à ses côtés. Elle frissonna. Il lui en avait fallu du courage pour accepter de revenir cette année, pour confier son petit à son ami, mais le temps était venu. Le nouveau tournage et son rôle de femme flic lui avaient permis de reprendre pied dans sa réalité, dans sa vie. Elle rayonnait à nouveau, pleine de projets et d'envie. Elle fit quelques pas en regardant la plage qui s'endormait au couchant. Curieusement, elle se sentait observée. Des badauds, bien sûr, et puis elle était à Cannes. Et elle jouait le jeu, heureuse de sa célébrité recouvrée. Mais cette sensation était étrange et étonnamment douce. Appuyé à la jetée, Jocelyn regardait son épouse, fascinée et éblouie. Jamais il n'aurait pensé la revoir. Elle était si belle, comme dans son souvenir. Il tremblait et se souvenait lui aussi de cet autre printemps, et puis de leur journée, de leur nuit, de leur bonheur. Il tressaillit lorsqu'une main se posa doucement sur son épaule. « Hé, mec, on n'est pas au cinéma, hein ?» Patrick éclata de rire. il avait retrouvé son corps d'athlète et bénissait celui qu'il nommait Seigneur, Dieu, Allah ou Providence de cette transformation. Les derniers mois avant son départ avaient été terribles, et Patrick se réjouissait d'être à nouveau le danseur de bébé, le surfeur de Point Break. T'as beau jeu, Pat, de me dire ça. Et Ghost alors, c'était bidon? Et la scène où tu la touchais, ta Demi, c'était pour de faux? Jocelyn, fais gaffe, tu es borderline là, à la limite. Tu ne pourras pas, tu n'as pas le droit, même pour un instant. Et puis ce n'est pas non plus les ailes du désir, tu le sais, on n'est pas des anges. On revient une fois par an, c'est tout pour la gloire, parce que c'est notre petit rituel que de mélanger les années, les époques, les genres, et que notre présence apporte cette aura unique au festival, c'est tout. Ce dont tu viens de rêver à l'instant ne s'est jamais produit, jamais, tu m'entends? Hey man, listen to me. Oui Patrick, merci. Allez viens, rentrons, allons retrouver les autres. Au fait, il paraît que cette année il y a des auteurs aussi. M'en parle pas. Je viens de me taper une heure avec votre Françoise. My goodness, elle parle tellement vite. D'ailleurs, elle est à ta table, puisqu'ils ont eu la bonne idée cette année de nous installer par départ. Pff, so silly. Je suis dégoûtée. J'aurais vraiment préféré être avec toi et James à parler moteur. Les deux hommes s'éloignèrent en riant, tandis qu'Alice regagnait le plaza et se préparait à enfiler sa tenue de rêve. L'ambiance était bon enfant. Le festival battait son plein. Tandis que la croisette brassait son lot habituel de starlettes et de glamour et que les spectateurs assistaient tantôt comblés, tantôt agacés et toujours émerveillés par la beauté de cette geste cinématographique unique en son genre, aux différentes projections, le off se caractérisait par ce kaléidoscope de genre et d'époque qui en faisait la singularité. West Side Story succédait aux visiteurs du soir, vacances romaines à la fureur de vivre, et le théâtre aussi était à l'honneur, magnifié par la présence de quelques auteurs qui avaient eu le droit d'échanger leur présence au Salon du Livre contre l'aventure canoise. Bien sûr, il avait fallu expliquer, guider, rassurer. Certains n'emmenaient pas large. Keats, par exemple, faisait bande à part, avait même refusé de participer à la projection de Bryce Starr, se contentant d'errer sur la grève. Bah, il a toujours eu un paix au casque, lui, répétait amusé Marcel entre deux verres de petit jaune bien frappés. Shakespeare, au contraire, était dans son élément et passait des heures en tête-à-tête avec Laurent, assis sur le sable, à refaire le monde, à monter des projets aussi fous les uns que les autres. Bruno fumait, impassible, silencieux, étonné encore d'avoir quitté les habits d'un commissaire contre ceux d'un esprit. Jocelyn et James étaient devenus inséparables. Les deux gueules d'ange du off avaient en commun cet appétit de la vie, cette intelligence du corps et l'amour des femmes. Ce soir-là, ils cheminaient le long du rivage, encore un peu sonnés par cette projection des visiteurs du soir. Le cycle cinéma français avait pris fin dans un silence religieux, de telle sorte que les battements de cœur au creux de la pierre résonnaient encore à l'oreille des deux jeunes gens. « Je veux entrer en contact avec elle. Je le veux. L'occasion ne se reproduira peut-être jamais. »« Mais comment veux-tu y arriver, Jocelyn? Tu le sais bien, il n'y a aucune passerelle. » Les garçons, attendez-moi, j'ai une idée. Mais quittons la plage par pitié, vous savez bien que je déteste l'eau à présent. Nathalie arrivait en courant, merveilleuse dans sa robe moulante. La jeune femme avait les cheveux mouillés, en une sorte de défi permanent qui rappelait à tous sa fin tragique. Je sais comment tu pourrais lui parler. Écoute. Et elle se lança à mi-voix dans un récit qui fit sourire ses amis, tandis que le vent ramenait les vaguelettes argentées vers l'horizon et qu'ils quittaient le sable pour rentrer à leur pénate. La salle retenait son souffle. Le palmarès 2011 allait être dévoilé et tous, acteurs, metteurs en scène, musiciens, scénaristes, étaient à présent dans le no man's land de l'incertitude, entre espérance et grands frissons. Alice avait fermé les yeux un court instant. Soudain, la lumière s'éteignit, et le petit film dont on avait annoncé la surprise fut projeté. Il devait s'agir, apparemment, d'un court-métrage interprété par le jeune Tersiev, numérisé avec les dernières prouesses technologiques, puisque le numérique était l'autre invité d'honneur de cette cuvée 2011. Mais l'image hésita, balbutia comme au temps des Frères Lumière, et en lieu et place du court-métrage annoncé, les spectateurs médusés découvrirent une plage venteuse, aménagé en campement, dans un film nerveux qui ressemblait à du Super 8. Bon, encore un coup des intermittents. Je suis sûre qu'ils ont squatté la plage et qu'ils vont nous jouer les Roms expulsés, murmura son voisin à Alice. Elle le fusilla du regard et se rendit compte que la jeune femme n'avait sans doute pas la même sensibilité politique que lui. Elle tourna à nouveau son beau visage vers l'écran et sourit, émerveillée de ce petit film presque muet, où l'on avait filmé des gestes, des moments, un peu comme lorsqu'un cousin se promène, caméra à l'épaule, et fige pour toute éternité les visages empourprés de quelque communion ou bar mitzvah. Isabelle murmura à l'oreille d'Alice, de son incomparable voix rauque, quelques mots qui la firent frissonner. Elle se pencha en avant, soudain attentive, et puis elle le vit, lui, souriant, caché à moitié par la pose alanguie de James, adossé à cette portière. Et il la regardait, et elle pouvait lire « Je t'aime, Alice », sur ses lèvres qui répétaient cette phrase comme un mantra. Elle sourit à travers ses larmes, étonnée, comme le reste de la salle, par ce qui ressemblait à un merveilleux montage numérique. On leur avait annoncé une surprise sous forme de prouesse technique, un film qui rendrait la couleur au noir et blanc, la parole à Lee Languish, un film qui reconstruirait Tara. Mais il n'avait jamais été question de lui, jamais. Et Alice s'étonna de plus belle en reconnaissant sur l'écran Laurent Terzieff, écharpe blanche au vent, qui récitait face à la mer la lettre à un jeune poète. Mais ce n'était pas le jeune comédien, non. C'était le Laurent lumineux, transparent, transfiguré de la fin, un homme fragile et incandescent, dont la beauté irradiait comme un feu d'artifice. « Alors, tout vous deviendra plus facile, vous semblera plus harmonieux et, pour ainsi dire, plus conciliant. Votre entendement restera peut-être en arrière, étonné, mais votre conscience la plus profonde s'éveillera et saura. Vous êtes si jeune, si neuf devant les choses que je voudrais vous prier, autant que je sais le faire, d'être patient, en face de tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Efforcez-vous d'aimer vos questions elles-mêmes, chacune comme une pièce qui vous serait fermée, comme un livre écrit dans une langue étrangère. Ne cherchez pas pour le moment des réponses qui ne peuvent vous être apportées, parce que vous ne sauriez pas les mettre en pratique, les vivre. Et il s'agit précisément de tout vivre. Ne vivez pour l'instant que vos questions. Peut-être, simplement les vivant, finirez-vous par entrer insensiblement un jour dans les réponses. » Les lumières se rallumèrent et une jeune actrice monta sur l'estrade pour excuser le jury de cette impardonnable erreur. Il devait s'agir d'une farce, personne ne comprenait et elle s'en tira avec ses pirouettes habituelles, faisant éclater de rire une salle déjà conquise qui ne pensait qu'au palmarès. Alice, cependant, s'était levée à la limite de la syncope. Elle se répétait la phrase de Rilke et revoyait le visage radieux de son amour. Elle courut vers les coulisses, dévala les escaliers, se précipita vers la petite pièce où s'affairaient les techniciens. Elle demanda à voir la bande, tout de suite. Un homme au visage bon la lui tendit, presque gêné, lui répétant qu'il ne comprenait pas, lui non plus. Et la date était bien celle de la veille. Oui, ces images dataient de la veille. Elle sortit en courant, en volant presque. Elle se précipita dans la nuit étoilée, son châle glissant sur ses épaules, et elle courut vers la jetée. Elle entendait mille musiques au fond de son cœur, des shabadas et des violons, et elle imaginait la voile d'un éternel retour, et aussi que Catherine ne remontait pas dans la voiture, dans cette triste station-service à Cherbourg. Elle voulait soudain arrêter le temps, remonter les siècles. Elle se faisait son cinéma, et c'était si bon d'espérer. Sur la plage abandonnée, elle ne trouva qu'une immense sculpture de sable dressée face à la mer. Deux personnages se tenaient côte à côte, et quelques mots étaient dessinés sur le sable. Elle se pencha et découvrit un titre de film qu'elle avait adoré et vu plusieurs fois avec Jocelyn, « Les visiteurs du soir ». Elle ne fut pas surprise de découvrir son propre visage et le sien, si beau, si tendre, dans les traits des figures de sable. Et alors même qu'elle voyait la douce marée méditerranéenne monter et lentement commencer à lécher inexorablement le travail de l'artiste, elle entendit très distinctement battre de cœur au rythme des flots. Une portière claqua sur la route surplombant la mer. Une voiture démarra en trombe. Alice se retourna juste à temps pour apercevoir, entre ses larmes d'émotion, une Porsche. Une femme aux cheveux courts conduisait en riant, cigarette aux lèvres, tandis que deux têtes blondes se confondaient à l'arrière sous les projecteurs illuminant la croisette.